Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 19h sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Ravie de vous accueillir dans Punchline. Dans un instant, la suite de nos débats. Mais tout de suite, c'est le journal de 19h avec vous, Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Comment amortir la hausse des prix du carburant? Encore un peu de patience. On connaîtra sans doute demain l'option choisie par le gouvernement.
Première réaction de Nicolas Sarkozy, forcé à témoigner au procès des sondages de l'Élysée. L'ex-président calme le jeu, pas besoin de lui envoyer des policiers, dit-il. Total, accusé d'avoir volontairement minimisé l'impact de ses activités sur le changement climatique, et cela dès les années 70. Et puis du foot au programme, ce soir, Lille-Séville en Ligue des Champions. Le LOSC doit se ressaisir pour garder une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, une rencontre à suivre sur Europa.
La tendance météo, c'est avec vous Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Attention au vent violent dans les prochaines heures. 9 départements du Nord-Ouest ont été placés en alerte orange. Le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise et la Somme. Et on fait le point à la fin du journal.
Europe 1.
Recherche, mesures simples et pas trop coûteuses. Voilà l'équation compliquée pour le gouvernement qui cherche donc une réponse à la hausse des carburants.
Oui, des annonces concrètes sont attendues a priori demain, mais les automobilistes s'impatientent. Caroline Baudry, vous l'avez constaté, porte d'Anière devant la station-service la moins chère de Paris selon le site Essence & Co.
Oui, les clients râlent devant les compteurs qui s'affolent. Le prix à la pompe a encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière. 2 centimes que cet automobiliste ressent sur son ticket de carte bancaire.
43,89. Ça ne fait qu'augmenter, ben ça fait 1,59 le litre. Donc c'est beaucoup plus important que ce que j'avais avant.
Elle a roulé des kilomètres en pleine heure de pointe pour se ravitailler. Ici, beaucoup trop cher de faire le plein ailleurs, souffle Sophie juste derrière. Elle n'attend qu'une chose, la baisse des prix.
Pas un truc compliqué encore, se procurer, avoir oublié que ça se retrouve directement à la caisse, quoi, à la pompe. Je préférais qu'il y ait une prise en charge d'une taxe, enfin que les taxes soient diminuées. J'attends une prise de position, j'attends pour tout le monde, pas seulement pour certaines personnes.
Tout sauf un chèque carburant, donc, dit-elle, avant de reprendre le volant. Sur la route, elle sera pendue à son autoradio pour ne pas rater peut-être une bonne nouvelle du gouvernement.
Voilà, nouvelle qu'on attend toujours. Merci Caroline Baudry. Bonsoir Jacques Serret.
Bonsoir.
Emmanuel Macron et Jean Castex ont longuement déjeuné ensemble et forcément, ils ont abordé la délicate question du pouvoir d'achat et de cette hausse des carburants. Ça balance toujours entre plusieurs solutions.
Oui, d'un côté, il y a l'option baisse des taxes sur l'essence et le diesel. Aujourd'hui, elle représente plus de la moitié du prix du litre. De l'autre, il y a la possibilité d'un chèque carburant pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais ces deux pistes ont toutes les deux leurs inconvénients. Toucher aux taxes coûte extrêmement cher pour l'État. Une baisse d'un centime par litre, c'est 500 millions d'euros en moins pour les finances publiques. Actionner le levier chèque carburant, ce n'est pas plus simple. Pour qui, quand, comment? C'est complexe à mettre en place, d'autant plus que l'exécutif ne veut pas faire de jaloux entre les différentes catégories socio-professionnelles. Alors il y a bien sûr le spectre des gilets jaunes qui plane au-dessus du gouvernement. Il y a 3 ans, presque exactement à la même période de l'année, ce mouvement prenait corps. Aujourd'hui, dans l'entourage du chef de l'État, on veut à tout prix éviter que cette colère endormie se réveille, au pire des moments, finalement à 6 mois de la présidentielle. Mais on ne veut pas non plus de manifestations de col blanc, indique un conseiller. Bref, un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron et Jean Castex. À la suite de leur déjeuner, des réunions ont eu lieu cet après-midi à Bercy et à Matignon. Le Premier ministre devrait normalement faire ses annonces demain.
Voilà, normalement, donc, fin du suspense. Demain, Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Simple blague ou véritable fait politique, en tout cas, la dernière sortie en date d'Éric Zemmour fait beaucoup de bruit. Le toujours non-candidat à la présidentielle visitait tout à l'heure le salon Millipol de la sécurité intérieure. Il a saisi un fusil de haute précision utilisé par le RAID et en riant, il a visé les journalistes avec ces mots « On ne rigole plus là, poussez-vous, reculez ». La ministre Marlène Schiappa a rapidement dit son indignation sur Twitter. C'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. Réponse d'Éric Zemmour, Marlène Schiappa est une imbécile. Ambiance.
Première sortie publique pour Nicolas Sarkozy depuis l'annonce de sa convocation comme témoin au procès des sondages de l'Élysée.
Et l'ex-président était en séance de dédicace de son livre à Lyon. Protégé par son immunité, il avait d'abord refusé de se rendre au procès. Il devra pourtant se présenter le 2 novembre prochain, mais pas question de montrer le moindre signe d'énervement.
Il y a une constitution, il y a des lois et chacun doit les respecter. C'est la seule chose que je demande. Pour le reste, les forces de l'ordre sont assez occupées. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de moi. J'ai toujours répondu aux convocations qui m'étaient faites. Et compte tenu des fonctions qui étaient les miennes, peut-être même de la place que j'occupe auprès des Français, il ne faut pas de polémique. Il faut simplement du droit et le respect de la règle. Calmement. Je ne suis pas au-dessus des autres, je ne suis pas en dessous non plus. Et si la Constitution doit s'imposer, elle s'impose à tout le monde, pas simplement à moi. En son temps, le juge Jean-Charles de cette affaire, M. Tournaire, qui n'est pas quelqu'un qui a été extrêmement indulgent avec moi, avait indiqué que la convocation serait tout à fait déplacée. Bon, je ne sais pas ce qui a changé depuis, mais il faut voir les choses calmement et tranquillement et ne pas créer, surtout en cette période, de débats inutiles.
Nicolas Sarkozy au micro Europe 1 de Jean-Luc Bougeon. La jeune femme avait brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation anti-pass sanitaire début août. Cette enseignante, ex-membre du FN, écope de 6 mois de prison avec sursis.
On l'appelle le procès de l'affaire de la sextape. Il s'est ouvert ce matin à Versailles.
Oui, en présence de l'ancien footballeur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. 5 personnes comparaissent pour tentative de chantage et complicité. Mais Karim Benzema brille par son absence. Gladys Laffitte, il risque pourtant 5 ans de prison.
Oui, une absence pour motif professionnel, explique ses avocats. Son ex-coéquipier de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, lui, est bien là et il regrette l'absence de Karim Benzema.
Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, c'est-à-dire qu'il manque Karim. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, nous on va jusqu'au bout et que ça soit derrière moi.
Les 4 autres prévenus sont là eux aussi et livrent chacun leur thèse, selon les mots du président, souvent excédés par des explications confuses, particulièrement lorsqu'il insiste pour savoir s'il était question d'argent en échange de la sextape. Non, assure l'un des maîtres chanteurs, Mustapha Zouaoui.
Il n'y a pas eu de chantage, on n'a pas demandé d'argent, il n'y a eu aucune demande d'argent. Moi, principalement, j'ai jamais demandé à Karim d'aller voir Mathieu et de lui demander de l'argent. Pour moi, ils sont partis le voir parce qu'ils pensaient qu'on allait faire quelque chose.
Qu'il voulait m'aider, c'est quand même fou d'entendre ça, s'étonne atterré Mathieu Valbuena à la barre. Je me suis senti en danger, explique-t-il. J'ai eu peur pour ma carrière, le foot c'est toute ma vie. Je sais très bien que l'équipe de France, ça allait être compliqué. Et ça s'est vu par la suite, conclut-il, dépité face au tribunal.
Merci Gladys Laffitte, le procès se poursuit jusqu'à vendredi.
Une petite pause et dans un instant, la réponse du groupe Total, accusé d'avoir été conscient de l'impact de ses activités sur le changement climatique depuis des dizaines d'années. On en parle dans un instant dans le journal de 19h. A tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Hélène Zélani. Hélène, de graves accusations pèsent sur le groupe Total.
Et oui, selon des chercheurs français, le groupe connaissait l'impact des énergies fossiles sur le climat dès les années 70 et pourtant, il a semé le doute sur les connaissances scientifiques. Face à ces accusations, Louise Salé, quelle est la défense de Total ?
Eh bien, Total se défend tout simplement en disant que tout le monde savait en 1971 que le réchauffement climatique existait et ils connaissaient les causes et les conséquences de ce phénomène. Des patrons, des chefs d'État en avaient conscience. Mais le problème, c'est que face au grand public, le pétrolier a tenu un tout autre discours. Christophe Bonneuil est directeur de recherche au CNRS et c'est l'un des auteurs de l'étude.
En interne, on a l'impression que les grands cadres dirigeants, les ingénieurs et les scientifiques de ces entreprises étaient à peu près sur les mêmes positions que le GIEC dans son premier rapport de 1990. Et lorsqu'on regarde le discours vers l'extérieur, qui disent « Ah ben, on n'a pas assez de certitude, le réchauffement climatique est-il vraiment d'origine humaine ?» Certains, Galien dit que oui, Hippocrate dit que non, il y a un doute.
Voilà, donc cette stratégie de communication est bien connue, ça s'appelle la fabrique du doute et c'est exactement ce qu'a fait l'industrie du tabac dans les années 90 en minimisant le danger de la cigarette. L'enjeu pour Total avec cette stratégie, donc, c'était d'empêcher la mise en place d'une écotaxe et cette tactique a duré jusque dans les années 2000, puis le pétrolier a fini par reconnaître l'urgence climatique. Mais son verdissement, voilà, a mis du temps à cause de ce double discours passé. Difficile désormais de rattraper plusieurs décennies de retard.
Merci beaucoup Louise Salé. Puisqu'on parle environnement, Vladimir Poutine n'ira pas à la conférence mondiale sur le climat à Glasgow début novembre. La Russie, l'un des plus gros pollueurs au monde, espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.
Football, suite des matchs de Ligue des Champions avec ce soir Lille-Séville.
Oui, et le LOSC, champion de France en titre, espère bien se relancer. Ça s'annonce compliqué face aux Espagnols de Séville. Cyril de la Morinerie, vous êtes en direct de Lille.
Oui, je suis au pied du stade Pierre-Mauroy. Il y a déjà beaucoup de supporters qui sont arrivés. Ils seront 36 000 ce soir, car c'est une grande soirée qui se prépare. D'abord, vous l'avez dit, Lille est en difficulté dans cette Ligue des Champions, dernier avec un point. Mais les Lillois sont déterminés à renverser la montagne espagnole, sextuple vainqueur de la Ligue Europa. Comment ? Eh bien, en retrouvant les vertus affichées l'an dernier. Certes, l'entraîneur a changé avec le départ de Christophe Galtier et l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. Mais l'effectif, lui, est pratiquement le même. Le président du LOSC, Olivier Létang, reste positif, comme il l'a confié en exclusivité à Europe.
On est exclusivement concentré sur cette première manche contre Séville, qui est pour moi la meilleure équipe du groupe, le favori du groupe. Il y a une statistique qui est assez incroyable, mais le LOSC n'a jamais gagné un match de Champions League à Lille, dans son stade. Donc on espère que ce sera pour ce soir.
Voilà pour ce court extrait de l'entretien que nous a accordé Olivier Létang. Interview à retrouver en intégralité dès 20h dans Europe 1 Sport, présenté par Jean-François Pérez et Lionel Rousseau. Alors, on ne va pas se mentir, ce sera dur pour Lille, mais on va y croire. Lille qui va tenter ce soir de mettre fin à une série de 19 matchs sans victoire en Ligue des Champions.
Voilà, Cyril de la Morinerie en direct de Lille pour Europe 1.
Vous aimez les podcasts d'Europe 1 ? Faites-en profiter vos enfants ou vos petits-enfants. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire sortent aujourd'hui.
Oui, ce sont 12 épisodes pour ce premier podcast destiné aux 7-11 ans. Des histoires sur l'histoire avec un grand H pour les plus jeunes, mais aussi pour tous ceux qui veulent réviser leur classique. Marie Jiquel.
Amélia, une écolière pressée par un exposé à rendre, et Granny, une vieille dame au caractère bien trempé, se retrouvent toutes les deux propulsées dans un voyage dans le temps grâce à un ascenseur à l'apparence vieillotte, magique.
Mais comment ça fonctionne ?
Oh, ben, comme n'importe quel engin de ce genre, on lui dit à quel étage temporel on veut aller et il nous y emmène. Et il y a juste une chose qu'il faut que tu saches.
C'est quoi ?
Comme n'importe quel ascenseur, il peut repartir à tout moment.
Cette folle aventure va les mener de l'Égypte antique...
Je suis Akhenaton, seigneur d'Égypte et adorateur d'Aton.
...à la cour du roi Soleil.
Pourquoi le roi fait construire un nouveau château ?
Enfant, notre roi connut une période trouble appelée la Fronde.
Et quel rapport avec Versailles ?
Cette période a traumatisé Louis XIV.
Vous les avez peut-être reconnus, Christophe Ondelat, Mathieu Noël et d'autres voix chères à Europe 1 incarnent ces personnages historiques qui aideront peut-être vos enfants dans leur exposé.
Ça fait très envie, Christophe Ondelat en Akhenaton. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire, c'est donc un podcast Europe 1 spécial enfant qui sort aujourd'hui.
La météo, Marlène Duret, attention au vent violent ce soir et cette nuit.
Et oui, Aurore n'a rien d'une belle endormie. Aurore, c'est cette tempête qui va traverser la moitié nord du pays d'ouest en est ce soir et cette nuit, avec des rafales de l'ordre de 80 à 100 km à l'heure dans les terres, 100 à 120 sur les côtes de l'Atlantique Nord, 110 à 130 du littoral Finistère en remontant vers la Manche. Alors si on respecte la chronologie, les plus fortes rafales, on les attend en Bretagne et dans le département de la Manche ce soir. Après minuit, c'est plutôt du côté du Calvados et de l'Eure. Et puis pour la Picardie, en seconde partie de nuit, 4h, 5h du matin. Quant aux pluies, eh bien, on va les retrouver sur un axe sud-ouest-nord-est. Et au petit matin, elles vont s'éloigner par les Alpes et le Jura. Ensuite, le soleil reprendra le dessus en cours de journée. Il sera même généreux en Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au Roussillon. Belle journée en Corse, partout ailleurs, sur le reste du pays. C'est plutôt un ciel changeant, hein, partagé entre nuages et éclaircies avec des averses souvent fréquentes. Encore du vent quand même la matinée, hein, durant la matinée sur la moitié nord. Et puis on a de l'air plus frais, plus sec qui va faire revenir le soleil du côté de la pointe du Cotentin en Seine-Maritime jusqu'au nord Pas-de-Calais. Quant aux températures, elles vont continuer leur descente. Elles seront comprises demain après-midi entre 14 et 19 degrés en général avec 15 à Paris. Et puis elles seront proches de 21 à 23 degrés vers la Grande Bleue.
Merci beaucoup Marlène Duret pour la météo. À demain, 19h, chère Hélène Zellani pour le journal. Dans un instant, la suite des débats de Punchline, la dernière sortie d'Éric Zemmour et puis François Hollande qui joue les tontons flingueurs. À tout de suite dans Punchline.